Chapitre 5. Jamie était de retour d'une visite au boutiquier, et voyant Roland traverser la cour d'entraînement, il courut lui raconter les dernières rumeurs de bains de sang et de révolte à l'ouest. Mais il tomba à côté, les mots restant dans le non-dit. Ils se connaissaient tous deux depuis la petite enfance, et en grandissant, ils s'étaient défiés l'un l'autre, battus, et s'étaient livrés des milliers de fois à l'exploration de ces murs entre lesquels ils étaient nés. Roland passa devant lui, le fixant sans le voir, souriant de son sourire douloureux. Il marchait en direction de la masure de Corte, dont les stores avaient été baissés pour repousser la chaleur sauvage de l'après-midi. Corte faisait toujours la sieste à cette heure-ci, afin de pouvoir profiter pleinement de ses escapades de cavaleurs dans le labyrinthe infect des bordels de la basse ville. Dans un accès d'intuition, Jamie sut ce qui était sur le point de se passer, et pris entre la peur et l'extase, il était partagé entre l'envie de suivre Roland et celle de courir chercher les autres. Puis l'hypnose se brisa, et il courut vers les demeures en hurlant « Cuthbert ! Alain ! Thomas !» Ses cris résonnaient comme une plainte chétive dans la canicule de l'après-midi. Ils savaient tous, avec cette intuition qu'ont les garçons, que Roland serait le premier d'entre eux à tenter de franchir la ligne. Mais c'était trop tôt. Le rictus monstrueux sur le visage de Roland le galvanisa plus qu'aucune nouvelle de guerre, de révolte ou de sorcellerie. Voilà qui était plus que des paroles échappées d'une bouche édentée au-dessus d'un plan de salade constellé de chiures de mouche. Roland arriva devant la maison de son professeur et en ouvrit la porte d'un coup de pied. Elle vola en arrière, cogna de plein fouet le plâtre nu du mur et rebondit. Jamais il n'avait pénétré à l'intérieur. L'entrée donnait sur une cuisine austère, fraîche et brune. Une table, deux chaises à dossier droit, deux buffets. Du linoléum passé au sol, creusé entre deux lignes noircies, l'un vers le comptoir d'où pendaient les couteaux, l'autre vers la table. C'était donc là l'intimité de cet homme public. Le refuge fané d'un oiseau de nuit violent qui avait aimé trois générations de garçons dont il avait fait de certains des pistoleros.
« Corte !»
Il donna un coup de pied dans la table, l'envoyant voler à travers la pièce contre le comptoir. Les couteaux accrochés au mur tombèrent en scintillant tel un jeu de jonchets. Dans la pièce voisine, il entendit un frémissement lourd, un raclement de gorge endormi. Le garçon n'entra pas, sachant qu'il s'agissait d'une feinte, et que Corte s'était réveillé en un éclair et s'était tenu près de la porte, l'œil brillant, dans l'attente de pouvoir briser le cou de ce présomptueux intrus.
« Corte, montre-toi ! C'est un ordre, cerf !»
Il employait à présent le haut-parler, et Corte ouvrit la porte à la volée. Il ne portait qu'un caleçon fin sur son corps trapu aux jambes arquées, zébré de cicatrices de haut en bas et bosselé de nœuds de muscles. Son ventre était saillant et arrondi. Mais le garçon savait d'expérience que c'était de l'acier trempé. Vissé dans cette tête chauve et cabossée, l'œil valide le fixait. Le garçon salua dans les formes.
Ne m'enseigne plus tes leçons, cerf. Aujourd'hui, tu es mon élève.
Tu en avances, piaillard, fit Corte d'un ton désinvolte, mais en employant lui aussi le haut-parler.
De 2 ans, pour le moins, d'après ce que je peux en juger. Je ne poserai la question qu'une seule fois. Te dédis-tu ?
Pour toute réponse, le garçon se contenta de son ignoble sourire douloureux. Pour Corte, qui avait vu ce même sourire sur main champ d'honneur ou de déshonneur ensanglanté sous un ciel écarlate, il s'agissait d'une réponse claire, la seule sans doute qu'il pût croire.
« C'est trop dommage !» commenta distraitement le professeur. « Tu étais un élève très prometteur, le meilleur en 2 douzaines d'années, je dirais. Ce sera triste de te voir brisé, engagé dans une impasse. Mais le monde a changé. J'entends le galop des jours mauvais. »
Le garçon demeura silencieux, et il aurait été bien incapable de fournir la moindre explication cohérente s'il lui avait été demandé de le faire. Mais pour la première fois, l'horrible sourire s'adoucit quelque peu.
« C'est le sang qui parlera, » dit Kort. « La révolte et la sorcellerie à l'ouest, ou non ?»« Je suis ton serf, mon garçon. Je reconnais ton ordre et m'incline, fût-ce la dernière fois, de tout mon cœur. » Et Kort, lui qui l'avait battu, bourré de coups de pied, lui qui avait fait couler son sang, qui l'avait maudit, le traitant de rejeton de la syphilis, mit un genou en terre et baissa la tête. Le garçon toucha la chair vulnérable et parcheminée de la nuque avec émerveillement. « Lève-toi, serf, dans l'amour. » Kort se redressa lentement, et ce qui perçait derrière le masque impassible de ses traits laminés pouvait bien être de la douleur. « C'est du gâchis. Dédie-toi, espèce de jeune idiot. Je brise mon propre serment. Dédie-toi et attends. » Le garçon ne répondit rien. « Très bien. Si tu es décidé, qu'il en soit ainsi. » La voix de Kort prit un ton sec et professionnel. « Une heure. Et tu as le choix des armes. » « Amèneras-tu ton bâton ?»« Comme toujours. »« Combien de bâtons t'ont été enlevés, Kort ?» Ce qui revenait exactement à demander « Combien de garçons ont pénétré dans la cour carrée au-delà du grand hall et en sont revenus en apprenti pistolero ?»« Aucun bâton ne me sera enlevé aujourd'hui, » fit lentement Kort. « Je le regrette. » Il n'y a qu'une occasion, mon garçon. La précipitation et le manque de mérite sont punis de la même sentence. Ne peux-tu attendre ? Le garçon revit Martin debout au-dessus de lui. Ce sourire et le bruit du cou derrière la porte close. Non ! Très bien. « Quelle arme choisis-tu ?» Le garçon ne répondit rien. Kort exhiba une rangée de dents irrégulières. « Voilà qui est sage. Dans une heure. Te rends-tu compte qu'il est fort probable que jamais plus tu ne revois ton père, ta mère et tes cababés ?»«
Je sais ce que signifie l'exil. » dit doucement Roland.
Maintenant va et médite sur le visage de ton père. Grand bien t'en fasse. Et sans se retourner, le garçon s'en alla.